On peut donc reprendre au verset 19 l'étude, donc passer au paragraphe suivant, où on voit le même jour, le premier de la semaine, le jour de la résurrection, les disciples rassemblés. Alors ce matin, on a relevé que d'après l'évangile de Marc, le rapport de Marie, du verset 18 ici, n'a pas été reçu dans un premier temps par les disciples. Mais on voit que les écrivains, les évangélistes, suivent des lignes de pensée différentes, et cette incrédulité qui a pu y avoir, en tout cas dans un premier temps, parmi les disciples, elle n'est pas mentionnée du tout ici. Et comme on l'a dit ce matin, dans ce paragraphe, versets 19 à 23, on a en image l'assemblée chrétienne, l'assemblée telle que nous la connaissons dans le temps, dans la période chrétienne, avec la présence du Seigneur au milieu de ceux qui sont réunis. Alors, à ce moment-là, précisément, lors du jour de la résurrection, ce n'était pas encore l'assemblée. L'assemblée, elle a été formée le jour de la Pentecôte. Donc, à ce moment-là, les disciples réunis n'étaient pas encore l'assemblée. Mais tout ce qui nous est rapporté dans ce paragraphe nous parle, nous montre quelque chose de l'assemblée, des bénédictions liées à la vie de l'assemblée, bénédictions chrétiennes. Et donc c'est dans ce sens-là que tous les détails qui nous sont donnés ici ont une importance pour nous, et une importance aussi symbolique. Donc je mentionne par exemple quelques points qui sont fondamentaux. Donc avant tout, c'est la présence du Seigneur au milieu des siens. Mais je mentionne seulement, il est question du premier jour de la semaine. On voit les disciples rassemblés et les disciples séparés du monde extérieur avec les portes fermées. La présence du Seigneur, la paix qu'il donne, qu'il apporte deux fois. On verra certainement les nuances. On voit la joie des disciples. On voit la mission que le Seigneur confie à ses disciples. On voit le souffle divin, recevez l'Esprit Saint. Et aussi, dans le verset 23, cet ordre ou commandement ou instruction qui mérite aussi d'être expliqué et clarifié, où on voit qu'ils sont appelés à administrer le pardon des péchés. Et donc tous ces points-là sont fondamentaux, importants, et il nous convient d'y réfléchir les uns après les autres.
Nous avons bien vu le Seigneur ressuscité. Mais il y a aussi encore dans ces derniers versets qu'il a dit que je ne suis pas encore monté. Et puis il dit, je monte vers mon Père et votre Père, je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Alors, c'est ce qu'on a ici aussi, c'est pas seulement le Seigneur ressuscité, mais c'est aussi le Seigneur qui est monté et qui est glorifié. Et ainsi, nous le voyons après, une fois que ça a été annoncé aux disciples, que maintenant il va se présenter comme celui qui est ressuscité et qui sera glorifié.
Déjà dans le verset 19, je crois qu'on peut voir, comme Eric a déjà montré, plusieurs principes, plusieurs détails qui on peut appliquer sur le temps de l'assemblée ici sur la terre. Le soir, premièrement, le jour premier de la semaine, les portes fermées à cause de la haine de ce monde. Troisièmement, le Seigneur qui vient. Et cinquièmement, au milieu de ce troupeau assemblé d'après Matthieu 18 en son nom. Le soir, c'est maintenant, pour ainsi dire, typiquement ce temps où le Seigneur est absent de ce monde. Et presque directement après son absence, nous avons cette courte période de puissance et aussi où l'Esprit Saint a pu agir directement. On voit ce déclin, on voit ce soir, le Seigneur est absent. C'est notre temps, le Seigneur est absent. C'est la nuit dans un autre mot, dans une autre image. C'est le temps où nous vivons aujourd'hui. Mais dans ce temps de soir, de nuit, il y a des bénédictions, il y a des privilèges que nous pouvons goûter. Le premier jour de la semaine, c'est le jour typique de ce temps-là, parce que c'est la résurrection de notre Seigneur, parce que c'est un nouveau, pour ainsi dire, début. Ce n'est plus le dernier jour, le sabbat, comme pour Israël, où le peuple a dû faire quelque chose pour être sauvé à la fin. Mais ici, nous avons le jour de la résurrection de notre Seigneur comme point de départ pour toutes les bénédictions de son assemblée. Et c'est le jour où le peuple de Dieu se rassemble. Certainement, dans Actes 2, nous avons qu'au début, les premières semaines, probablement, quand ce peuple était à Jérusalem, on s'est rassemblé, on s'est réuni chaque jour. Mais déjà dans Actes 20, on voit dans ce verset 7 que dans le temps plus tard, c'était le premier jour de la semaine où normalement les croyants s'étaient se rassemblés pour rompre le pain. Acte 20, verset 7. « Et le premier jour de la semaine, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain. » C'est le jour typique pour ces rassemblements. Ça veut dire, si on n'est plus capable, si on n'a plus la puissance pour se rassembler chaque jour, c'est toujours possible. Et il y avait, je crois, aussi des réveils où on a commencé, pas seulement avec le dimanche, le premier jour de la semaine, mais plusieurs jours. Mais s'il y a une journée seulement, c'est ce premier jour de la semaine. Je crois, certainement ce n'est pas une loi, mais 1 Corinthiens 16 fait très clair que d'après les pensées de Dieu, ce jour reste jusqu'à aujourd'hui, cette journée. Dans 1 Corinthiens 16, vous voyez que l'apôtre ordonne des collectes et il dit dans le verset 2 que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez lui, accumulant selon qu'il aura prospéré. Il dit ici mettre à part à la maison pour quelle raison? Pour quel but? Pour avoir la collecte dans l'assemblée, certainement. Et c'est le premier jour de la semaine. Pour moi, il est très précieux que l'ordre de Paul, ce n'est pas pour rompre le pain chaque premier jour, mais pour la collecte. Parce que cette fraction du pain, ce n'est pas une réponse pour un ordre, mais c'est une réponse à cet amour du Seigneur de répondre à ce qu'il nous a laissé ici comme volonté. Mais c'est certainement ce premier jour de la semaine qui est appelé dans Apocalypse 1 aussi le jour qui appartient au Seigneur. Il est dit dans Apocalypse 1, je crois verset 9 ou 10, verset 10, « Je fus en esprit dans la jour dominicale. » Et l'expression dans le texte original, c'est le jour qui appartient au Seigneur. Comme le repas, 1 Corinthiens 11, est le repas qui appartient au Seigneur. Ces deux choses sont liées. Quel privilège qu'aujourd'hui encore, nous avons la possibilité, dans nos pays, même librement, de nous réunir ce premier jour de la semaine. Et quel encouragement qu'il y a des croyants qui habitent dans les pays où ce n'est pas vraiment permis, qu'ils quand même se réunissent ce jour-là pour répondre à ces enseignements que le Seigneur nous donne par Jean 20 et d'autres portions. Et je me limite maintenant sur les portes qui étaient fermées. Ici, certainement, par crainte des Juifs, on peut bien comprendre, ils ont eu crainte, peur, parce que courtement avant, c'était leur Seigneur, leur Sauveur, qui était crucifié par les Juifs. Mais il me semble, cette expression « peur des Juifs » nous montre pour notre temps aujourd'hui que nous sommes entourés par un monde, par une monde qui n'est pas favorable aux croyants, mais une monde qui est contre les croyants. Et ça reste toujours, même si nous habitons dans, vivons dans des pays où nous sommes libres à nous réunir, quand même cette haine de ce monde, ce rejet qui était le rejet du Seigneur, reste aussi le rejet de son assemblée. Et si nous n'avons plus d'impression du rejet, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Si nous sommes améliorés à ce monde, qu'il n'y a plus de la haine du rejet de ce monde, il y a quelque chose qui n'est plus d'après la parole de Dieu. Ici, nous voyons, comme le Seigneur, dans Jean 15, par exemple, a déjà dit aux disciples que nous sommes dans un monde qui est contre lui, et parce qu'ils sont contre lui, ils sont contre lui, ils sont aussi contre nous. Mais ça n'est pas un obstacle pour nous réunir, pour parler un peu plus généralement, pour jouir les privilèges que le Seigneur a donnés à son assemblée pour le temps de son absence et pour être obéissant aussi à ce que nous a laissé pour notre temps dans la parole de Dieu qui nous enseigne sur notre marche personnelle comme collectif.
Chers amis, seulement une petite remarque concernant la façon dans laquelle les choses nous sont présentées ici. Le Seigneur Jésus est actif. Il est actif dans son activité et aussi dans ses paroles. Le Seigneur Jésus sait exactement ce qu'il veut montrer. Il sait exactement choisir le moment et la situation dans laquelle il peut montrer quelque chose. Nous connaissons tous le passage où nous trouvons que le Seigneur, où il est dit que qui est un docteur comme lui. Je crois que c'est dit docteur aussi. Oui. Qui enseigne comme lui. Il enseigne non seulement par ses paroles, mais il enseigne aussi par la façon dans laquelle il agit. Il enseigne aussi en choisissant le moment où il dit quelque chose, il choisit la situation et tout cela est un enseignement. Je trouve que c'est impressionnant comment le Seigneur agit ici. Il prend le moment où les disciples, dans ce petit paragraphe, sont enfermés. Le Seigneur utilise cela pour leur faire apprendre quelque chose. Moi, je serai au milieu d'eux, au milieu de vous, quand vous êtes vraiment réunis dans une pensée à moi. Je trouve ça très très beau. Comment le Seigneur, comment il agit, comment il pense à l'un comme à l'autre, comment il emploie ceci ou cela, aussi dans le paragraphe qui nous a occupé déjà, le paragraphe donc de Marie. Il ne se met pas devant elle, il se trouve derrière elle. Il est là par une simple parole, un seul mot qu'il emploie, qu'il dit, simplement le nom de Marie, pour montrer quelque chose. Tout cela, tout ce que le Seigneur fait, est adapté vraiment à ce qu'il veut faire. Parce que lui, il a en vue déjà beaucoup de choses et plus de choses que nous ne croyons. Par exemple, les quatre petits paragraphes que nous avons dans ce chapitre, le Seigneur savait ce qu'il voulait faire. Il savait bien pourquoi il a dit à Marie, « Ne me touche pas ». Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit la même chose aux femmes qui étaient venues ? Pourquoi il n'a pas dit la même chose à Thomas ? Non, mais au contraire. Il voulait montrer quelque chose de très spécial. Il avait toujours l'ensemble en vue. Il avait vu en vue une vue très, très large et qui voyait déjà le futur, l'avenir. Il donnait des exemples, il donnait des types pour l'avenir. Ainsi, il nous apprend quelque chose. Quel homme comme lui dans son enseignement ? Je répète, c'est quelque chose que nous pouvons admirer et voir aussi, et en être très très reconnaissant, et que nous soyons aussi amenés à le louer, à l'adorer aussi, de la façon avec laquelle il nous ouvre la parole. Par ses paroles, par ses actes, par ses silences, et quand il a parlé, toujours parfait. Toujours exactement ce qu'il voulait montrer. Ici, il veut nous montrer quelque chose, nous avons vu déjà, quelque chose concernant l'enseignement, concernant aussi ce que nous trouvons ici, quant à l'avenir, n'est-ce pas ? Tout cela était en vue, dans la vue du Seigneur. Admirons-le aussi de sa façon d'agir encore aujourd'hui par ça. Sa parole est dans nos cœurs.
Oui, c'est très beau de voir la façon du Seigneur, comment il agit ici. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Je voulais juste encore ajouter une remarque quant à cette journée, premier jour de la semaine. Nous avons vu que c'est une nouvelle ordre. Le jour caractéristique n'est plus le sabbat, mais c'est le premier jour de la semaine. Cela ne veut pas dire que le dimanche, c'est le sabbat chrétien. Il faut oublier vite cette expression, ça n'existe pas, un sabbat chrétien. C'est un jour, non pas un jour de repos, mais un jour qui est caractérisé par le Seigneur. Journée dominical. Mais c'est intéressant que l'Ancien Testament contient déjà des allusions à ce jour. Je trouve très intéressant dans Lévitique 23, à deux reprises, où je veux montrer deux versets. Il y a question là-bas, bien sûr, des sept fêtes de l'Éternel. Et il dit, quant à la gerbe des prémices, dans le verset 11, à la fin, le sacrificateur la tournoiera le lendemain du sabbat. Alors c'est bien que le sabbat est caractéristique dans le judaïsme, mais il est question déjà du lendemain du sabbat. Et cette fête nous parle justement de la résurrection du Seigneur. Alors, on continue au verset 16, Lévitique 23. compterai 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat. Et là, vous présenterez à l'Éternel une offrande de gâteau nouvelle. Alors ici, nous avons, on pourrait dire, la fête qui donne une illustration de l'Assemblée. C'est la Pentecôte, le jour de la naissance de l'Assemblée. Et encore une fois, on rencontre le lendemain du sabbat. Alors, ce fait lie les deux d'une façon très belle. Il y a le Seigneur ressuscité, il y a l'Assemblée. Et les deux sont liés par cette pensée le lendemain du sabbat, le premier jour de la semaine. Maintenant, il dit, ce soir donc étant venu, ce jour-là, le premier jour de la semaine, ce jour-là, je pense que c'était un jour qui a vu un changement d'émotion très très rare. Un jour qui a commencé par des pleurs et des larmes, par des disciples désillusionnés. Aussi, Luc 24, les disciples qui s'en vont à Emmaüs, tristes, découragés. Et maintenant, on arrive au soir de ce jour-là. Et on verra que l'ambiance va changer complètement et qu'à la fin, il y aura la joie. Alors, le soir de ce jour-là, les disciples étaient ensemble, on en a parlé, les portes fermées, par crainte des Juifs, et maintenant Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Les frères ont déjà fait la comparaison entre ce qui s'est passé ici historiquement et ce que nous pouvons avoir aujourd'hui quand nous sommes rassemblés au nom du Seigneur. On pourrait poser la question, est-ce qu'ils étaient rassemblés au nom du Seigneur? Je ne crois pas qu'ils avaient attendu que le Seigneur viendrait. Mais c'est intéressant si on compare rapidement avec Luc 24. Il est question des deux disciples d'Emmaüs qui rentrent et il dit dans le verset 33 déjà, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et ceux qui étaient avec eux. Juste une note là, ce ne sont pas seulement les onze, les disciples, il y avait d'autres avec eux, disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Alors c'était ça le sujet de leur conversation. Marie, elle avait vu le Seigneur. Pierre, il avait vu le Seigneur. Maintenant les deux arrivent d'Emmaüs, ils avaient vu et reconnu le Seigneur. Alors les cœurs étaient vraiment remplis de lui et occupés de lui. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur est là, tout à coup. Il se tint au milieu d'eux. Une très belle image, je pense, de cette réalité aujourd'hui, quand il y a les cœurs des deux ou trois qui sont occupés de lui et qui lui donnent la première place, il vient, il est au milieu. Et en fait, c'est intéressant qu'il dit, il se tint au milieu d'eux. Apparemment, cette place était libre. Il n'y avait aucun des disciples qui occupait la place centrale. Et quand le Seigneur venait, il pouvait prendre cette place dans le centre. Il n'y avait personne qui aurait dit, en fait, cette place est réservée. Hein. Tout le monde était d'accord et heureux d'accorder cette place centrale au Seigneur. Ce qui est une condition importante aujourd'hui pour être réunis au nom du Seigneur, c'est qu'on lui donne toute autorité et la place centrale parmi nous.
D'ailleurs, la seule chose, si on lit attentivement ce paragraphe, qui nous soit dit des disciples, eh bien, c'est qu'ils se réjouirent. Et on peut dire que tout le reste, c'est la personne du Seigneur Jésus qui dirige et qui conduit tout. C'est lui qui est au milieu. Et la pensée de Dieu a toujours été, on peut dire, que ce soit de la Genèse à l'Apocalypse, c'est que le Seigneur Jésus soit au milieu. Dans la Genèse, c'est l'arbre de vie. Au milieu du jardin, dans l'Apocalypse, on le retrouve aussi, de sorte que la pensée divine, c'est que la personne du Seigneur Jésus, non seulement elle occupe chacun de nos cœurs comme Marie, mais que dans l'assemblée, ce soit lui, le centre. Et alors s'il est au centre, les disciples n'ont plus de place, si ce n'est sur son cœur, et si ce n'est pour se réjouir en lui et des bénédictions qu'il veut nous accorder.
Je voudrais juste relever, ça a déjà été dit d'une autre manière, la sobriété que l'Esprit utilise là, dans cet évangile, pour nous présenter cette scène, quand on regarde un peu en parallèle ce que les autres évangiles nous rapportent, je voudrais relever juste deux faits, je crois qu'on a déjà parlé. De cette journée, il nous est parlé au début du chapitre du matin, le premier jour de la semaine, le matin, comme il faisait encore nuit. Et puis rien n'est dit de la journée. On est le soir de ce jour-là, le premier de la semaine. Et dans ce déroulement de ces versets 19 à 23, on a vraiment que ce qui compte en rapport avec la résurrection du Seigneur et sa place dans cette première apparition aux disciples réunis. Et en contraste, je voudrais juste relire les versets de la fin de Luc qui correspondent à ce moment-là, qui nous décrivent un peu l'atmosphère avant que le Seigneur apparaisse là, au milieu d'eux. Au verset 35, Luc 24, 35, les disciples d'Emmaüs sont revenus. Juste au verset 34, ils entendent la nouvelle que le Seigneur est apparu, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Puis les disciples qui étaient reviennent d'Emmaüs racontent des choses qui étaient arrivées en chemin et comment ils s'étaient fait connaître à eux dans la fraction du pain. Et comme il disait ces choses, il se trouva lui-même là, au milieu d'eux, et leur dit « Paix vous soit ». Et alors les versets qui suivent, et les paroles du Seigneur montrent quelle était l'agitation dans les cœurs. Comment ces paroles « paix vous soit » dans ce moment-là, avec toute la portée qu'elle a pour nous, pour tous les temps, mais dans ce moment-là, comme point de départ, est nécessaire pour mettre de côté toutes les pensées, les raisonnements, tout ce qui s'agitait dans les esprits des disciples. Paix vous soit, et eux, tout effrayés, remplis de crainte, croyaient voir un esprit. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi monte-t-il des pensées dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même. Touchez-moi, voyez, car un esprit n'a pas de la chair et des os comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme de joie, ils ne croyaient pas encore et s'étonnaient, il leur dit, etc. Il y avait là un grand trouble. Et comment le Seigneur doit apporter, faire entrer dans leur cœur, dans leur esprit, la réalité de sa présence ressuscitée. Le « Paix vous soit » de Jean résume tout cela. Mais la réalité dans laquelle le Seigneur se manifestait là était une... On est bien loin dans un sens de Matthieu 18, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. Matthieu 18, le Seigneur présente deux, trois qui se réunissent dans l'intention d'eux d'être réunis pour le Seigneur, ayant en quelque sorte comme préalable d'être là pour le Seigneur avant même d'être réunis. Alors que là, dans cette première occasion, on peut dire qu'ils étaient là à cause du Seigneur, parce que c'est ce qui occupait leur cœur, mais à cause du Seigneur, dans un état de grand trouble. Il leur dit quand même, de joie, ils ne croyaient pas. Une contradiction extraordinaire. Ils voient le Seigneur, ils se réjouissent, et en même temps, ils ne croient pas. Comment est-ce possible? Oui, c'est ce côté de notre humanité qui n'est pas présenté dans Jean. Jean, ce qui est de nous, ce qui est de l'homme, ce qui est de la faiblesse, de la foi, de ce qui est tout ce registre-là, n'a pas sa place. Dans ce chapitre, dans ce paragraphe de Jean, ce qui domine, c'est le Seigneur au milieu, le Seigneur qui apporte la paix, le Seigneur qui remet toutes choses à sa vraie place, à sa juste place, et qui connaît les cœurs.
Donc on a souligné le premier jour de la semaine, cet ordre de choses nouveau qui est introduit, les portes du lieu fermées par crainte des Juifs. Et je mentionne aussi que dans le paragraphe suivant, on a les mêmes choses quand ils sont réunis 8 jours après. Et il y a une petite expression qui se trouve dans le verset 26 aussi, qu'on peut souligner. Il est dit « Et 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison. » Et ça veut dire en fait exactement, ils étaient de nouveau à l'intérieur, au dedans. Et je trouve que c'est précieux cette façon de parler, parce que ça montre qu'il y a un dedans et un dehors. Il y a un lieu où il y a l'intimité et puis il y a le monde extérieur où il y a la haine. Et ça nous montre bien cette ligne de démarcation entre ce que le Seigneur appelle les siens et ce que le Seigneur appelle le monde. C'est deux choses entièrement séparées. Mais quand ils sont réunis, ils sont dans la maison, à l'intérieur, au dedans. Et donc le Seigneur est le centre, et on remarque sa venue, on pourrait dire, surnaturelle. Les portes sont fermées, et puis il vient, il se trouve là au milieu, il n'a pas ouvert la porte. Il est venu dans son corps de résurrection. Et c'est quelque chose qui dépasse les choses naturelles que l'on est habitué à connaître. Il vient donc comme le ressuscité dans son corps de résurrection, d'une manière, je répète, surnaturelle au milieu des siens. Mais en même temps, il a toujours son corps, les marques de ses souffrances. Et c'est des choses qui peut-être dépassent notre intelligence humaine, mais c'est ce que les Écritures nous rapportent. Et il leur dit, donc on l'a mentionné, il leur dit deux fois, paix vous soit. Et il me semble qu'il faut bien comprendre que c'est pas la salutation sociale que les Juifs se donnaient entre eux. Je crois que les Juifs, quand ils se saluent, ils se disent shalom, paix. Mais là, c'est pas un salut d'ordre social que le Seigneur leur donne. Et il me semble que, donc il y a deux fois paix vous soit, il me semble qu'il y a deux aspects de la paix que le Seigneur donne. Et il y a d'abord, par exemple, il y a des passages qui nous montrent ce double caractère de la paix ou du repos que le Seigneur donne. En Jean 14, je mentionne Jean 14, le Seigneur dit à ses disciples, verset 27, Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et on peut aussi mentionner Matthieu 11 à la fin. Alors, il n'est pas question de paix en Matthieu 11, il est question de repos, mais je crois que les pensées sont les mêmes. Matthieu 11, 28, le Seigneur qui dit, d'abord, il dit, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Ensuite, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Donc on voit dans ces différents passages deux aspects de la paix. Et on peut dire que le premier aspect, c'est la paix de la conscience, et le deuxième, la paix du cœur. La paix de la conscience, c'est la paix avec Dieu, selon Romains 5, verset 1. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a fait la paix par le sang de sa croix. Nos consciences sont... nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Nos consciences ne nous reprochent plus rien, nous avons été purifiés dans nos consciences devant Dieu par le sang de sa croix. Et quand il dit le premier « paix vous soit », donc il les assure de cette paix qu'il a faite à la croix, et tout de suite après, il est dit, il leur montra ses mains et son côté. C'est pour leur dire, je vous donne cette paix avec Dieu, mais voyez de quelle manière je vous l'ai acquise, par mes souffrances sur la croix.
Et ce mentionnement des souffrances du Seigneur, certainement ici, les mains et son côté, c'était des souffrances corporelles. Mais comme nous avons vu qu'ici, beaucoup de détails sont, pour ainsi dire, typiquement pris pour montrer quelque chose plus profond. Et ces souffrances expiatoires de notre Seigneur sont la base de nos réunions. Ils sont la base de l'existence de l'Assemblée. Sans les souffrances de notre Seigneur, il n'y avait aucune Assemblée. Et ici, nous voyons que cette base est montrée parce que le Seigneur veut que nous n'oublions jamais la nécessité de ces souffrances de son œuvre pour que l'Assemblée soit existante. Peut-être encore deux, trois autres détails. Encore une fois sur le Seigneur qui était au milieu d'eux. Il ne dit pas qu'il s'approchait. Quand il était là, il était au milieu d'eux. Il était au centre. C'est tout à fait la même chose, et je crois qu'il est quand même utile de lire une fois ce verset dans Matthieu 18 pour que nous l'ayons devant nous, parce que nous avons besoin aussi le verset 18 plus tard. Matthieu 18, verset 20, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Ce n'est pas qu'il vient pas après pas, mais quand ces deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là, je suis là au milieu d'eux. Ça veut dire que le Seigneur n'accepte pas que la place centrale dans ces deux ou trois. N'oublions jamais cela dans nos réunions. Concernant la paix, elle est très intéressante, je trouve. Comme nous avons vu, le Seigneur fait la liaison avec ses souffrances, que le sacrifice dans l'Ancien Testament, qui parle de la réunion en assemblée pour le culte, c'est le sacrifice de prospérité. On peut traduire aussi le sacrifice pour la paix est pas seulement lié avec les souffrances du Seigneur, mais il est dit dans Lévitique 3, verset 2, que celui qui est venu avec ce sacrifice, verset 2, il posera sa main sur la tête de son offrande. Se poser la main sur la tête de cette offrande, typiquement, veut dire que l'odeur, que la valeur de cette offrande, de ce sacrifice, est transmis pour celui qui a sacrifié ce sacrifice. Ça veut dire, elle est consciente que cette odeur de ce sacrifice, il se trouve dans cette odeur. Et là, paix. Il n'a aucune peur encore de pouvoir être condamné. La paix dans la conscience, la paix en plus dans le cœur veut dire on est tout à fait en accord avec Dieu. Il n'y a plus de peur qu'il y a quelque chose qui nous peut séparer de lui. C'est la raison pour laquelle la paix dans ce paragraphe ici est si importante. Et quand il a exprimé la paix la première fois, il leur montra ses mains et son côté. J'ai dit, ce sont les souffrances corporelles extérieures. N'est-ce pas? Pour ainsi dire, c'est un peu comme dans l'Ancien Testament avec l'Holocauste. C'était le pot de ce sacrifice qui était donné au sacrificateur. Parce que ça nous montre que nous sommes que capables de comprendre l'extérieur de ce que le Seigneur a accompli. C'est le pot. Pour quel but est-ce que le sacrificateur a pris ce pot? Si on fait la liaison avec Genèse 3, où Dieu a fait les vêtements de ce pot pour Adam et Ève, on peut voir que ce paix ici est pour ainsi dire devenu le vêtement de ses disciples, de ses croyants qui se réunissent autour du Seigneur, de ceux qui font partie de cette assemblée. Et avec cela, on peut bien comprendre que les disciples se réjouirent quand ils virent le Seigneur. Pour lui, certainement, historiquement, c'est maintenant, pour la plupart d'eux, la première fois qu'ils ont vu le Seigneur comme la personne ressuscitée. Mais typiquement pour nous, si on voit le Seigneur, on voit tous les résultats de son œuvre. On voit celui qui nous a acquis cette place dans l'assemblée et qui est le fondement de cette assemblée et qui est celui qui nous anime, qui nous donne le sens de ce que l'assemblée veut dire et qui est comme centre de nos rassemblements, celui qui prend, qui attire nos cœurs. Alors le résultat, c'est la joie. Avant, ils ont eu peur. Avant, ils étaient très tristes. Mais par le regard vers la personne du Seigneur, tout change, comme nous avons entendu. Et le cœur est rempli du Seigneur. C'est la raison pour laquelle, dans l'assemblée, pas seulement comme position le Seigneur à la place centrale, mais c'est notre désir, n'est-ce pas, de laisser agir le Seigneur, de présenter le Seigneur comme ce centre pour qu'il soit capable d'attirer nos cœurs et que la joie remplit nos cœurs. C'est la joie en lui la joie sur lui et la joie d'avoir maintenant cette relation et cette communion avec lui. Il reste la question, est-ce que nous connaissons pratiquement ces choses? Que le Seigneur est le centre, pas seulement positionnellement, mais vraiment pratiquement dans nos réunions. Est-ce que nous connaissons que nous sommes en paix? La paix de conscience, qui est la part de chacun qui a confessé ses péchés. Mais est-ce que nous avons pratiquement cette paix avec Dieu? Est-ce que nous jouissons cette paix? Est-ce que nous avons aussi cette paix de relation avec le Seigneur, avec le Père, dans nos cœurs? Et est-ce que nous avons des réunions où nous allons avec la joie? Est-ce que la rencontre avec le Seigneur, chaque dimanche et dans les semaines, a comme contenu, comme résultat, comme motivation, la joie dans nos cœurs? Est-ce que nous allons vraiment avec joie? Et si ce n'est pas le cas, quelle est la raison? Est-ce que nous mettons dans la lumière de Dieu s'il y a quelque chose dans ma vie qui est un obstacle de vraiment jouir cette joie? Encore une fois, ici, nous voyons positionnellement, pour ainsi dire, les choses. C'est le caractère de notre temps. Mais il faut jouir ces choses aussi pratiquement, je crois, et c'est la raison pour laquelle j'ai posé ces questions.
Le Seigneur Jésus était présent corporellement, ces deux dimanches en tout cas. Aujourd'hui, le Seigneur est là, mais il n'est plus corporellement. Mais on peut et on désire jouir de sa présence comme s'il était là, dans son corps. Et je crois que le fait quand le Seigneur dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, que ce soit avec son corps ou que ce soit sans son corps, c'est pas différent. Le Seigneur est là, sa présence est là, sa personne est là. Et il faut bien reconnaître que bien des fois, cette paix nous a manqué, la paix de la présence du Seigneur qui nous dit « paix vous soit ». Mais le Seigneur produit par sa grâce, dans ces moments, une aide pour nous amener à jouir de sa présence. Le Seigneur, il veut nous faire goûter cette présence, sa présence. Mais nous reconnaissons bien qu'il y a beaucoup de fois des obstacles qui nous voilent la personne du Seigneur. Que le Seigneur nous accorde de jouir comme ils en ont joui, de pouvoir dire après une réunion de culte, nous avons vu le Seigneur.
La première chose que le Seigneur fait, c'est de dire « paix vous soit ». On peut seulement se réunir autour du Seigneur si on écoute vraiment cette paix. Si on a cette paix, ce que lui, il a fait. Et ainsi, quand il est là, au milieu d'eux, d'abord, il leur montre ses mains. On voit que cette œuvre à la croix, qu'il a été crucifié, il a été sur le bois maudit à cause de nos péchés, pour notre salut. C'est là. Mais on voit aussi, il ne leur montre pas les pieds, il leur montre le côté. Alors, le côté, ça montre qu'il est vraiment mort. Cette lance du soldat a été mise dans son côté quand il était mort et qu'il a coulé ce sang et l'eau qui est sortie de son côté. Donc l'œuvre était faite, l'œuvre était accomplie. C'est après qu'il avait dit « c'est accompli » qu'il est mort. Et maintenant, ça nous parle de ses souffrances, ça nous parle de sa mort. Et alors, quand nous sommes réunis autour de lui, quand lui, il est là au milieu de deux ou trois qui sont assemblés en son nom. Il est au milieu et il se présente, il nous montre ses mains. Il nous montre combien il a souffert. Qu'est-ce qu'il a, cette œuvre qu'il a accomplie jusqu'à la mort à la croix. Et maintenant, nous le connaissons comme celui qui est mort et qui est ressuscité. Et c'est, qu'est-ce que cela, quel effet ça a pour nos cœurs? Est-ce que vraiment, nous, il y a de la joie? Nous pouvons le ressentir chaque dimanche spécialement, quand nous nous réunissons, quand il veut que nous nous rappelons de sa mort, que nous annonçons sa mort ici dans ce monde qu'il a mis à la croix. Alors, d'une part, cela nous fait rappeler ses souffrances, mais aussi ses résultats merveilleux, que maintenant il est ressuscité et qu'il est vivant et que maintenant nous pouvons, après qu'il leur a montré ça, on lui dit encore une fois, paix vous soit, que maintenant nous sommes envoyés dans ce monde comme lui, il a été envoyé. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie à vous. Alors maintenant, nous sommes ses témoins. Nous qui annonçons sa mort, nous sommes les résultats de cette œuvre et nous pouvons ainsi témoigner de ces résultats merveilleux de son œuvre.
J'aimerais juste souligner que les blessures du Seigneur qu'il a montrées étaient le résultat de ses souffrances de la part des hommes. Et on peut se poser la question, si on a lié cela avec la paix, est-ce que la paix n'est pas plutôt le résultat des souffrances que le Seigneur a endurées de la part de Dieu et du fait qu'il est entré dans la mort? Je pense qu'il n'y a pas de problème vraiment, parce que les blessures que le Seigneur a montrées étaient la preuve qu'il avait été sur la croix et que là, bon, c'était l'endroit où il avait enduré les souffrances, le jugement de la part de Dieu et où il était entré dans la mort. Alors, c'était la preuve qu'il avait accompli l'œuvre qui était la base de cette paix. Maintenant, on a appliqué cette phrase et les disciples, dans le verset 20, « se réjouir donc quand ils virent le Seigneur ». On l'a appliqué à notre rassemblement et surtout au culte. Et je pense que c'est la première application. Peut-être on pourrait rajouter qu'il y a aussi un principe général. Je pourrais poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souffre d'une abondance de joie? Qui se réveille le matin et qui pense ah, « je suis trop heureux, j'ai trop de joie, je dois faire quelque chose ». Normalement pas, non. Normalement, il y a plutôt une manque de joie. Alors ici, nous trouvons le secret, la source de la joie chrétienne. Simplement dit, la joie chrétienne provient de notre occupation avec et la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Les disciples se réjouirent quand ils virent le Seigneur. Est-ce que nous le voyons? Est-ce que nous recevons des impressions fraîches de sa personne et son œuvre? Cela apporte la joie. J'aimerais juste mentionner une autre image de l'Ancien Testament qui donne une belle illustration. Nombre 15, j'aurais besoin d'un peu d'aide de prononciation. Il y a question là des trois sortes de sacrifices. Et il dit, c'est un holocauste, Nombre 15, verset 2. Et le premier cas, c'est le gros ou de menu bétail. Il présentera l'offrande, verset 4, à l'Éternel. Il présentera une offrande de gâteau. Et maintenant, on a un dixième de fleur de farine pétrie avec le quart d'un hein? Merci. Hin d'huile et en plus un hin de vin pour la libation. Alors, la farine parle de la vie parfaite du Seigneur, l'huile parle du Saint-Esprit et le vin parle de la joie. Et on se rend compte maintenant avec le deuxième sacrifice, c'est un sacrifice plus grand, c'est le bélier, verset 6. Qu'est-ce qui se passe? L'offrande de gâteau est plus grande. Il dit 2/10, verset 6, de fleurs de farine, et un tiers, pas un quart, d'un hin d'huile, et un tiers d'un hin de vin. Alors ça augmente. Et dans le troisième cas, encore plus, un jeune taureau, verset 8, et maintenant, il y a dans le sacrifice, verset 9, il y a 3/10 de fleurs de farine, et il y a même un demi-hin d'huile et un demi-hin de vin. Alors, tout simplement dit, le plus grand le sacrifice, on pourrait dire le plus grand notre appréciation du Seigneur Jésus, le plus grand le sacrifice de gâteau, notre appréciation de sa vie parfaite par le Saint-Esprit, le plus grand, la libation, hein, le plus de vin, il y a de plus, le plus de joie. Peut-être une petite illustration de ce principe que nous trouvons ici. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Alors si nous voulons plus de joie, maintenant nous savons où la trouver. Et peut-être une pensée sur la deuxième fois que le Seigneur prononce ces mêmes paroles. Jésus leur dit encore « Paix vous soit ». À première vue, une répétition, exactement les mêmes mots, mais le Seigneur ne se répète pas simplement, mais il ajoute une explication bien différente. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Je crois qu'un frère a déjà dit que dans les quatre évangiles, on trouve quatre missions différentes. C'est très intéressant de comparer comment cela correspond au caractère de l'évangile. Mais cette mission ici, c'est la plus impressionnante, cet ordre. C'est quelque chose que je n'aurais jamais osé lier de cette façon. Le Seigneur parle de la mission que lui, il a reçue. Il dit, le Père m'a envoyé dans le monde. Et il compare la mission qu'il donne aux disciples maintenant avec sa propre mission que lui, il avait reçue. C'est bien vrai qu'il y a deux mots différents utilisés pour envoyer. Il y a une différence, mais quand même, il lit les deux. Comment on peut comprendre ? Ce que le Seigneur a reçu comme mission, c'était une mission globale. Il a accompli l'œuvre, il a mis la base pour les conseils éternels de Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais au fond, c'est lié. Parce que si vous annoncez l'Évangile, si vous partagez la parole, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez pour la révélation de Dieu dans le Fils. Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait dans une façon bien plus élevée. Il a révélé Dieu, il a révélé le Père sur la croix. Alors, grâce insondable que le Seigneur tout d'abord veuille nous utiliser, qu'il veuille nous donner une mission, et qu'ensuite il lie cette mission avec la sienne, qui était bien plus élevé, et pour tout cela, il donne la paix. Il allait les envoyer dans un monde hostile. On peut dire hostile. Il devait attendre de la résistance, mais il dit, vous pouvez y aller avec une paix parfaite. C'est une paix pratique pour le chemin. C'est la paix qu'il avait lui-même dans sa vie. Elle vient d'où? Elle vient de la connaissance ou de la conviction que ce que je fais maintenant, c'est Dieu qui me l'a dit. Et je suis seulement obéissant. Et si c'est le cas, je peux laisser les conséquences à Dieu. Même s'il y a la résistance, on peut se réjouir de cette paix pratique.
On pourrait dire que nous sommes arrivés au verset 22 et verset 23. Et au verset 22, on a cet acte du Seigneur qui souffle dans ses disciples et qui leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que c'est le don de la personne du Saint-Esprit aux croyants dont il était parlé au préalable dans l'évangile de Jean, notamment chapitre 14, 15, 16, avec la venue du Consolateur, la personne du Saint-Esprit? Alors là, il semble que ce soit quelque chose de différent. D'ailleurs, on remarque que l'article défini, il est entre crochets, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent dans le texte original. Et le texte dit « Recevez Esprit Saint ». C'est pas la personne du Saint-Esprit qui est donnée à ce moment-là. La personne du Saint-Esprit, elle est donnée le jour de la Pentecôte, acte chapitre 2. Mais là, on peut dire que c'est l'homme ressuscité qui communique la vie de résurrection à ses disciples. Et il y a le parallèle est souvent fait avec Genèse 2, verset 7, où on voit lors de la création de l'homme, Genèse 2, verset 7, il est dit « Et l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie. » Donc Genèse 2, verset 7, c'est la vie naturelle qui est donnée à l'homme. Et Jean 20, 22, c'est la vie de résurrection qui est donnée par l'homme ressuscité. Je crois qu'en 1 Corinthiens 15, il est dit du Seigneur qu'il est un esprit vivifiant. Il donne la vie. Et là, il donne sa vie de résurrection. Et plus tard, ils recevront la personne du Saint-Esprit. Donc il y a une distinction qui est faite entre cette vie nouvelle de résurrection et le don de la personne du Saint-Esprit. Et je dis juste une petite remarque, c'est souvent ce double aspect, il peut être mal compris et mal interprété, mal expliqué. Et il y a notamment dans ce qu'on appelle le courant pentecôtiste, cette idée qu'il y a deux dons du Saint-Esprit. Le premier, tout le monde l'a, et le deuxième, c'est un don supplémentaire, que quand on le reçoit, on peut parler en langue, etc. Et ce n'est pas juste. C'est d'abord le Seigneur qui donne sa vie de résurrection, une vie nouvelle, et ensuite c'est le don de la personne du Saint-Esprit. Et quand il est question des arts de l'Esprit ailleurs, dans Éphésiens, ce n'est pas cette idée qu'il en a donné une petite partie en Jean 20 et qu'il va en donner une plus grande en acte 2. Non. Ça ne veut pas dire cela. Je ne m'aventure pas dans une explication de ce que ça veut dire précisément parce que ce n'est pas notre sujet, mais je mentionne juste le fait que c'est une fausse explication de l'expression « les arts de l'esprit ». Donc, Jean 20, 22, le Seigneur, l'esprit vivifiant qui donne la vie de résurrection à ses disciples et qui donne une capacité nouvelle. Il leur a donné une mission et il leur donne la capacité pour accomplir cette mission. Et en Luc 24, il me semble que le même acte, il est décrit différemment, et on voit en Luc 24, il est dit, il leur ouvrit l'intelligence, verset 45, et il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures. Il me semble que, qu'on me corrige si nécessaire, mais il me semble que c'est la même chose qui est décrite de deux aspects différents. En Jean 20, c'est la vie de résurrection qui est donnée, et Luc décrit ce même acte, il me semble, avec l'aspect du Seigneur qui ouvre l'intelligence aux disciples pour entendre les Écritures.
Peut-être encore deux remarques sur ce verset 22. On peut demander pourquoi est-ce que c'était nécessaire quand les disciples ont eu déjà, comme un frère a dit cet après-midi, ils ont eu déjà la nouvelle vie. Et c'est juste. Mais comme Eric a dit, c'est toute autre qualité de cette vie qui est donnée à ses disciples. Ce n'est pas seulement la nouvelle vie, mais c'est la vie de résurrection. Et par cela, on peut dire, elle est accomplie ce que le Seigneur a dit dans Jean 10, verset 10. Moi, je suis venu, deuxième partie, afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est la vie complète, avec toutes les ressources, toutes les qualités, toutes les bénédictions que Dieu a voulu donner par cette vie. Et en plus, comme nous avons entendu, c'est par cette vie de résurrection qu'ils étaient capables d'accomplir ce service du verset 21 que le Seigneur les a envoyés pour être ici dans ce monde comme ses représentants dans leur vie et dans leur service. Pour cela, il est nécessaire d'avoir cette vie de résurrection, sa vie, pour avoir cette communion perpétuelle avec lui. Quand même, je crois que typiquement, ce verset parle, pour le temps de l'Assemblée, du don de Saint-Esprit. Ça veut dire, je crois, dans ce paragraphe, nous avons vu que plusieurs expressions sont typiques pour le temps de l'Assemblée sur la Terre. Et je crois que cette expression, pourquoi est-ce que le Seigneur ne parle pas « je donne la vie éternelle » et pas de l'Esprit-Saint? C'est certainement, premièrement, parce que c'est par l'Esprit-Saint que cette vie a la puissance. Et c'est par l'Esprit-Saint qu'il a donné la vie. Mais il me semble que le Seigneur veut donner cette image que pour le temps des croyants ici sur la terre, c'est aussi pas seulement lui qui est le don de Dieu pour eux, mais aussi le Saint-Esprit qui est donné comme personne. Mais j'espère bien que nous avons compris cette distinction. Historiquement, ils ont reçu la vie, ici la vie éternelle en abondance. Et après, dans le verset 23, il est un peu étonnant que le Seigneur ajoute « À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. » Ça nous fait penser à ce service, à cette autorité que le Seigneur a donnée à Pierre dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16, après cette révélation sur l'assemblée que le Seigneur a donnée à Pierre, il est dit dans le verset 19, Matthieu 16, verset 19, « Et je te, Pierre, donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et c'est par Pierre, mais d'après Jean 20, aussi plus généralement par ces apôtres que le Seigneur a laissé, ou Dieu a laissé entrer dans ce domaine de l'Assemblée ici sur la terre, les différents groupes, premièrement des Juifs, après des Samaritains et aussi des nations. Mais en comparaison avec ce sujet, ou en liaison avec ce sujet qui est devant nous, l'Assemblée, certainement nous pensons encore une fois à Matthieu 18. Matthieu 18, où le Seigneur a donné à l'Assemblée ce pouvoir, mais aussi cette responsabilité, verset 18. Matthieu 18, verset 18. « En vérité, je vous dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Lierez est le parallèle dans notre verset, Jean 20, verset 23, de retenir les péchés, et le deuxième, ça veut dire le délierer du verset 18 de Matthieu 18, et de remettre les péchés. Alors nous avons ici cette capacité et cette responsabilité de l'Assemblée sur la terre, pour parler dans les mots de 1 Corinthiens 5 et 2 Corinthiens 2, d'exclure une personne de la communion pratique de l'Assemblée et de pardonner et de le reprendre dans la communion pratique de l'Assemblée sur la terre. C'est remarquable que le Seigneur ici, dans ses courts versets, déjà annonce cette responsabilité et cette capacité de l'Assemblée. Pourquoi? Parce que par cela, le Seigneur nous montre et montre aux disciples qu'il est possible que le péché peut arriver dans l'Assemblée. Ça veut dire qu'il montre déjà pour le temps de l'Assemblée ici sur la terre que ce n'est pas seulement recevoir quelqu'un de ce monde qui accepte le Seigneur, mais qu'il est possible aussi que quelqu'un peut être identifié avec le péché comme idolâtre, comme fornicateur, 1 Corinthiens 5, et qu'il doive l'exclure de la communion de l'Assemblée. Ça peut être choquant, mais le Seigneur nous montre par cela qu'il a vu dès le début la fin de son Assemblée sur la terre dans leur responsabilité et dans leur vie. Mais il donne aux disciples, ça veut dire ici à l'Assemblée locale, Matthieu 18, 1 Corinthiens 5, cette capacité et cette responsabilité d'agir si quelqu'un vient qui veut être parti pratiquement de l'Assemblée ici sur la terre. Certainement, l'Assemblée n'est pas capable de pardonner un péché pour le ciel. C'est que Dieu qui peut pardonner, qui peut recevoir quelqu'un pour le ciel. Mais l'Assemblée ici, on parle quelquefois de cette responsabilité d'administration, et l'Assemblée a ce devoir, s'il y a le péché dans l'Assemblée, d'exclure, et s'il y a quelqu'un qui répond et qui confesse ses péchés, de le recevoir comme celui qui croit au Seigneur et qui veut avoir partie, qui veut avoir communion dans l'Assemblée, de le recevoir. C'est un peu peut-être négatif, partiellement au moins, cette fin de ce paragraphe, mais il montre que le Seigneur en avance donne à son assemblée, à ceux qui font partie de son assemblée, toutes les mesures qu'ils ont besoin pour agir dans chaque situation qui peut arriver. Parce que c'est en fait le seul devoir qu'il donne, la seule responsabilité qu'il donne à son assemblée de recevoir et d'exclure, à côté certainement de se réunir. Et ici, le Seigneur donne tout ce qu'il est nécessaire. Alors, il donne dans ces peu de versets 19 à 23, premièrement, des privilèges, des bénédictions que lui a donné pour son assemblée et à la fin aussi la responsabilité qu'il a transmise à cette assemblée. Ce n'est pas lui dans le ciel qui fait cela, mais il a donné cette responsabilité à nous qui font partie de cette assemblée dans les rassemblements locaux.
Je voudrais revenir sur ce verset 22 en parallèle à ce qui a déjà été dit, sur un aspect parallèle. Le verset 22 commence par « ayant dit cela ». Ayant dit quoi ? Paix vous soit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit « recevez l'Esprit Saint ». Je pense qu'on voit là qu'il y a un lien entre ce à quoi cet envoi des disciples et l'Esprit Saint tel qu'il est présenté là. Et on retrouve en même temps là une expression que le Seigneur dit au chapitre 17. On retrouve pratiquement ce qu'il vient de dire. Chapitre Jean 17, verset 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Les disciples ont été envoyés. Le Seigneur leur précise les choses au début du livre des Actes, au chapitre 1er, verset 8. « Vous recevrez de la puissance le Saint-Esprit venant sur vous. » Ce n'est pas ce qu'on voit en Jean 20, c'est ce qu'on verra au chapitre suivant dans les Actes. Et la suite, c'est le contenu de leur mission. « Vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. » La mission globale des apôtres, c'est cela. Et dans ce même évangile de Jean, on a une distinction qui est faite à deux reprises. On le voit un peu plus loin dans le chapitre, au verset 29, ce que le Seigneur dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Deux catégories de personnes. Ceux qui sont témoins oculaires du ministère du Seigneur, et on le verra après dans un autre passage, de sa vie, de son chemin, de sa mort, de sa résurrection. Les apôtres ont un rôle particulier. Juste encore, un deuxième passage qui nous fait aussi cette distinction, c'est de nouveau en Jean 17, au verset 20. Le Seigneur demande au Père, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole. La distinction entre ceux qui ont vu le Seigneur, qui ont suivi le Seigneur, qui sont ses témoins de sa résurrection, et ceux à qui ils transmettront tout ce que le Seigneur leur a donné à connaître. Et quand on regarde au début des Actes, la première chose que... J'utilise un mot qui n'est pas tout à fait juste, mais vous comprenez pourquoi je le dis comme ça. La première initiative de Pierre, qui n'est pas une initiative, en ce sens que c'est bien le Seigneur qui le conduit à cela, au chapitre 1er, c'est le remplacement de Judas. Et qu'est-ce qu'il dit ? Verset 21, « Il faut donc que d'entre les hommes qui se sont rassemblés avec nous pendant tout le temps que le Seigneur Jésus entrait et sortait au milieu de nous, en commençant depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été élevé au ciel d'avec nous, quelqu'un d'entre eux soit témoin avec nous de sa résurrection. » l'importance que ces 12 apôtres choisis, apôtres envoyés, qui avaient une première mission pendant le temps du ministère du Seigneur et qui ont une nouvelle mission après que le Seigneur soit envoyé. C'est remarquable d'ailleurs que Pierre relève comme point de départ le baptême de Jean, « Repentez-vous, le royaume de Dieu s'est approché », et comme point de, pas final, mais qui limite ce temps, non pas la résurrection, mais le moment où le Seigneur est monté au ciel. Il faut ces témoins, il faut ces 12 témoins, qui ont un service particulier, et qui pour ce service sont là préparés particulièrement. Ayant dit cela, par rapport à l'envoi, il souffla en eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ils doivent être armés pour ce service particulier avec une dimension qui ne nous est pas explicitée là, mais qui découle plutôt de tout ce que nous lisons, de tout ce que nous voyons là. Jean est le dernier apôtre qui écrit très tard par rapport aux autres apôtres et qui fait au fond un condensé de l'évangile en mettant l'accent sur les choses, disons la place centrale, si on peut dire, du Seigneur comme Fils de Dieu. Et les apôtres ont eu, comme dans ce service de témoins, ce sont eux qui font le trait d'union entre le ministère du Seigneur sur la terre et le ministère écrit. Leur parole relaye la parole du Seigneur et annonce et prépare la parole écrite que nous avons. Il y a ceux qui ont vu le Seigneur, il y a ceux qui ont cru par le témoignage des apôtres. Il y a ceux mentionnés dans Jean 17, ou ce que le Seigneur va dire à Thomas. Toi, tu as vu et tu as cru. Mais voilà, après toi, il y en aura beaucoup qui ne m'auront pas vu et qui auront cru. Et leur part n'est pas moindre, parce qu'ils n'ont pas vu. Bienheureux. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas vu, mais ils ont cru. Bienheureux. Et là, les apôtres sont maintenant dans ce temps. Ils commencent là, ce jour-là, ils commencent ce temps de transition. Il va y avoir les 40 jours avec le Seigneur présent au milieu d'eux. Et puis le Seigneur sera enlevé. Et là, ils seront entre guillemets, des gros guillemets, ils seront seuls. Non, ils ne seront pas seuls. Ils ont le secours de l'Esprit, ils ont le Seigneur avec eux qui les conduira. Et ça, c'est un autre aspect qui est totalement parallèle à ce qui a déjà été dit, mais qui nous donne une autre perspective sur ces disciples qui sont maintenant, non pas à la, ils sont bien sûr à la fin de quelque chose, mais ils sont au commencement d'autre chose et d'une autre chose qui est d'une toute autre ampleur que tout ce qu'ils ont connu et que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Le Seigneur sait cela et il les arme pour cela. Il ne les envoie pas une mission avec les mains nues. Il leur donne toutes les ressources dont ils ont besoin pour ce à quoi il les envoie.
Il me semble que cette différence qu'on a entre la mission que le Seigneur confie aux apôtres, d'une part, et ce qu'il en est de l'assemblée après, on peut l'apercevoir dans la première épître de Jean. Dans la première épître de Jean, qu'est-ce que nous dit l'apôtre Jean au chapitre 1 et au verset 3 ? Il nous dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous, les apôtres, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous ayez communion avec nous, les apôtres. Et notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Il était important, le Seigneur a donné des apôtres, nous ne sommes plus apôtres ici, le Seigneur a donné des apôtres pour propager ce message de l'Évangile. Il leur a donné une autorité aussi, comme on le voit dans notre chapitre, dans notre verset de l'Évangile selon Jean, au chapitre 20. Mais on voit bien ici, dans cette première épître de Jean, combien il est important d'être en accord, et ce qui est dit dans le livre des Actes, c'est qu'il est parlé de la communion des apôtres.
aussi. Et il me semble qu'il est important de bien identifier justement la mission spécifique, spéciale, que le Seigneur a confiée à ses apôtres au début de l'Assemblée, dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle sphère qui allait s'ouvrir. Mais bien sûr, dans ce passage que nous avons ici, dans notre passage du verset 19 au 23, il y a tellement d'éléments qui rappellent l'Assemblée que nous pouvons effectivement, bien, j'aimerais remettre quelques pensées un peu pratiques par rapport à cela et par rapport aux réunions de l'Assemblée. La première, c'est que nous avons dit que c'était le premier jour de la semaine. Aujourd'hui, on parle du week-end. Vous le placez où, le premier jour de la semaine ? Dans le week-end ? Et pourtant, nous utilisons ces expressions régulièrement. Alors, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas l'utiliser, cette expression, on sait ce qu'elle veut dire. Mais être attentif quand même de ne pas suivre l'esprit de ce monde qui fait du premier jour de la semaine la fin de la semaine. Et on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, on revient à un sabbat qui est la conclusion et non pas le début de quelque chose. Alors il faut qu'on soit, encore une fois, il ne faut pas être dogmatique sur ces choses-là, mais soyons attentifs quand même, parce que l'esprit de ce monde, l'esprit de ce siècle, peut si facilement, au travers d'expressions et de mots comme cela, induire de fausses pensées dans nos esprits. Alors soyons attentifs à cela, le premier jour de la semaine. Nous avons parlé aussi du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, est-ce que ce jour a une valeur pour nous ? Le monde autour de nous ne fait plus de différence entre le dimanche et les autres jours. Mais est-ce que le jour du Seigneur est vraiment le jour du Seigneur pour nous ? Ou est-ce que nous pouvons, je ne veux pas dire là non plus, que certains n'aient pas à travailler ce jour-là. Mais est-ce que, quand nous avons conscience que c'est quand même le jour du Seigneur ? C'est un jour particulier de la semaine que le Seigneur a mis à part dans la semaine, c'est le jour de sa résurrection. Est-ce que, là encore, nous avons conscience de cela ? Ou est-ce que, finalement, avec tout ce qui nous arrive de par ce monde, où nous pouvons faire tout, même du travail, et malheureusement ça m'est arrivé aussi, donc je ne veux pas juger personne, mais qu'on soit rendu attentif à ces choses, ces expressions, quelle valeur, quelle conscience nous avons de ces choses. Le jour du Seigneur, est-ce qu'il est identique pour nous finalement à tous les autres jours? Ou est-ce que nous le mettons en avant dans nos pensées? C'est le jour du Seigneur. On voit ici que dans ces principes qui peuvent nous être utiles justement dans nos réunions, les portes étaient fermées à cause de la crainte des Juifs. Mais c'était aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, je crois, c'était pour laisser la place, que le Seigneur puisse prendre sa place au milieu des siens. Alors, quand nous sommes réunis autour du Seigneur, est-ce que les portes sont fermées ? Les portes, ce n'est pas les portes de cette salle, ce n'est pas les portes du local, c'est les portes de nos pensées, bien souvent. Quand je viens au rassemblement, est-ce que je viens et j'ai conscience de mon frère et ma sœur, il y a quelque chose qui ne va pas bien, dans celui-là, je m'entends bien. Est-ce que c'est pour des affinités que je viens ? Mes pensées sont aussi fermées vis-à-vis de cela, pour laisser la place au Seigneur. Si je suis occupé de l'un ou de l'autre, de mes pensées, de ce que j'ai fait durant la semaine, on a tous des activités, plus ou moins. Mais est-ce que je ferme mes pensées à tout cela, à toutes mes préoccupations ? Sinon, nous voyons ici que le Seigneur n'aura pas forcément la place, et alors nous ne goûterons pas sa présence au milieu de nous. Alors souvenons-nous de fermer les portes quand nous venons pour être réunis autour du Seigneur. Et ensuite il leur dit, quand nous venons, est-ce que nous avons conscience que le Seigneur est là pour nous parler ? Il leur dit, il parle à ses disciples. Alors, est-ce que nous sommes disposés à écouter ? S'il parle et que nous ne sommes pas disposés à écouter. Est-ce que nous ne... Il y aura des bénédictions, justement, qui ne pourront pas nous être apportées parce que nous les laissons de côté. Mais soyons attentifs. Il est là. S'il est là, il nous parle. Et il nous parle, mais il montre aussi. Il dit, il montre, ayant dit ce... Non, plutôt... Il montra ses mains et son côté. Quand nous venons là, est-ce que nous sommes disposés pour voir ce que le Seigneur veut nous montrer? Et si nous sommes là pour écouter ce qu'il a à nous dire, si nous sommes là pour voir ce qu'il a à nous montrer, alors certainement nous pourrons goûter sa présence au milieu des deux ou trois réunis en son nom. Et ensuite, on voit encore dans cette projection par rapport à l'Assemblée, ici, effectivement, quand il souffle l'Esprit, quand il recevait l'Esprit Saint, il souffle en eux et dit « recevez l'Esprit Saint ». Certainement, une pensée, un verset simple qu'on a évoqué hier soir, nous dit que ce n'est pas l'Esprit Saint comme il est descendu à la Pentecôte, puisque dans Jean 8, il est dit « L'Esprit Saint n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas été glorifié ». Dans notre passage, il était ressuscité, mais il n'était pas encore monté, il n'était pas encore glorifié. Donc, effectivement, ce n'est pas l'Esprit Saint en tant que personne telle qu'elle avait été annoncée par le Seigneur même dans les chapitres précédents de cet évangile, mais c'est bien, peut-être plutôt, la puissance de l'Esprit Saint dont ils avaient besoin, ces disciples, à la fois pour aller vers le monde, et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui est lié à l'Assemblée. Aller vers le monde, ce sont les serviteurs, ce sont les évangélistes qui vont vers le monde, où c'est nous, comme témoins, que nous avons à manifester justement ce qui est de Dieu, ce qui est du Seigneur vis-à-vis du monde, et où on a besoin d'une puissance pour résister à ce courant puissant du monde qui emmène tout sur son passage loin de Dieu. Mais il y a aussi cette puissance dont nous avons besoin par rapport à cette autorité et par rapport à ce mal, effectivement, qui peut être à l'intérieur et pour lequel nous avons besoin justement de cette puissance pour pouvoir ôter ce qui n'est pas selon Dieu et pour pouvoir rechercher au contraire ce qui est selon lui, exercer cette autorité puisque... L'Assemblée, maintenant, il n'y a plus d'apôtres. Ces apôtres qui étaient là ont disparu. En revanche, le Seigneur a maintenu une autorité. Cette autorité, il l'a remise à son Assemblée. Frères et sœurs réunis, et il leur a remis cette autorité, comme pour ici, comme on l'a vu en Matthieu 18, 20. Et donc, on voit combien, pour nos réunions aussi, avoir la conscience du besoin que la puissance de l'Esprit, que l'Esprit Saint ait toute sa liberté pour que nous puissions vraiment goûter ces réunions dont effectivement ces quelques versets peuvent nous parler de façon très, très imagée à la fois, de façon anticipée, mais combien il y a des principes aussi simples que nous pouvons retenir pour être exercés dans nos réunions d'Assemblée, pour justement être dans ces conditions où nous pouvons goûter la paix du Seigneur, sa présence, parce que c'est quand ils le voient, ils avaient entendu parler de sa résurrection, ils savaient qu'il était vivant, mais savoir qu'il est vivant n'est pas la même chose que de le voir bien sûr nous par la foi, comme on l'a dit tout à l'heure, et non par la vue, comme les apôtres et les disciples pouvaient le voir ici.
J'ajoute à ce que nous venons d'entendre par notre frère, seulement la pensée que aussi dans le service que nous devons faire, par exemple, quand le Seigneur a envoyé quelqu'un, il envoie toi et moi, alors à ce moment-là, il est vrai aussi que nous avons besoin du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit de dire ce qui lui plaît, mais aussi le Saint-Esprit peut nous conduire, veut nous donner une attitude qui emploie les moyens qui sont appropriés à ce que nous avons à dire. Ça, c'est une chose qui, aujourd'hui, dans notre temps, est une chose, il me semble, importante. Comment est-ce que je place ce que le Seigneur m'a donné à dire, à faire, devant ceux qui écoutent, ceux qui entendent? Quel est le chemin que je prends? Quels sont les moyens que j'emploie? Est-ce que là aussi, notre frère vient de parler aussi de cette influence du monde qui peut être là? Nous avons aussi compris que le monde peut avoir une influence peut-être d'abord très peu remarquée, et pourtant cette influence peut être là aussi dans la façon de penser, dans la façon de choisir un moyen, etc. Donc nous voyons combien claires sont les paroles du Seigneur. Il donne son esprit aussi, la façon de penser comme cela lui plaît aussi dans le service qu'il veut nous confier. Et nous pouvons être vraiment reconnaissants de ce que le Seigneur nous donne aussi, cette clarté par l'esprit, quand nous voulons être fidèles à sa pensée et à son instruction, oui. Merci.
Nous voulons ou devons peut-être avancer. Si vous me permettez juste encore une pensée sur le verset 23, et après j'essaie d'avancer. Je dis cela un peu aussi pour les jeunes. Qu'est-ce que cela veut dire remettre les péchés administrativement? Qu'est-ce que c'est? Et qui a l'autorité pour ça et pourquoi? Tout simplement, remettre un péché administrativement, cela veut dire simplement de constater que cette personne peut être reçue dans le cercle de la communion chrétienne pratique. Alors, c'est une décision difficile. Si vous n'aviez pas écouté cet après-midi, et si vous ne connaissiez pas les versets, qu'est-ce que vous auriez dit? Qui peut prendre cette décision? Peut-être j'aurais dit, il faudra un groupe de docteurs qui connaissent très bien la doctrine. Et eux, ils vont décider. Peut-être vous auriez dit, non, il faut un groupe de pasteurs qui ont à cœur les âmes, qui comprennent les cas pratiques. Mais le Seigneur dit ni l'un ni l'autre. Alors pourquoi il confie cette autorité aux deux et trois rassemblés en son nom qui n'ont peut-être aucun don? Comment elles peuvent avoir cette autorité? Alors je donne deux réponses. La première, c'est une autorité déléguée. C'est à cause du Seigneur qui est au milieu qu'ils ont cette autorité. Si vous regardez dans Matthieu 18, 20, cela commence avec le mot « car ». Alors, verset 18 dit « ce que vous liez sur la terre, c'est lié dans le ciel ». Pourquoi ? « Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Alors, c'est à cause de sa présence que eux, ils ont l'autorité. Ce qui est illustré d'une façon très belle ici, le Seigneur se tient au milieu. Et après, il parle de cette autorité. Deuxième réponse. Pourquoi le Seigneur donne cette autorité aux deux ou trois rassemblés en son nom? Dans une telle question de décider si quelqu'un peut être reçu ou non, si quelqu'un doit être exclu ou non, c'est très très facile pour nous de dévier, parce que soit c'est mon ami ou mon cousin, mon beau-frère, je connais bien et je suis un peu trop laxiste, merci. Ou dans un autre cas, peut-être c'est un frère qui m'a fait mal une fois et maintenant je suis trop sévère. Et la solution, c'est qu'on est focalisé sur la personne du Seigneur. Et quand on est dans cette attitude dans cette condition, je ne vais plus demander est-ce que c'est mon ami ou est-ce qu'il a été méchant avec moi, mais je vais demander qu'est-ce que le Seigneur souhaite. C'est ça la question. Est-ce que à la vie du Seigneur, il doit être reçu ou non? Alors c'est juste comme petit un complément à ce que les frères viennent déjà d'expliquer sur ce verset. Maintenant, on trouve un changement, une autre scène. C'est vraiment à partir du verset 26, 8 jours après. Mais les versets 24 et 25 nous présentent la personne principale qui joue un rôle important dans cet événement 8 jours après. Le verset 24 dit « Or Thomas, l'un des 12 apôtres, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vient. » Alors sur un plan pratique, on pouvait dire, Thomas, il a quand même raté, il a manqué beaucoup. Quelle expérience d'être rassemblé là, le Seigneur se tient au milieu, il leur parle, il leur donne cette paix, et lui, il a manqué tout cela. Et c'est toujours une grande perte si nous manquons une occasion où le Seigneur veut être au milieu et où il veut se présenter à nous. Mais il y a aussi l'autre signification que Manuel a déjà mentionné dans l'introduction, que Thomas, il a une signification symbolique, on pourrait dire. Il représente un groupe de croyants qui existera après l'enlèvement de l'Église. Alors on pourrait dire que dans les versets 19 à 23, il s'agit de l'époque de l'Église, et à partir du verset 24, nous apprenons ce qui aura lieu après l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur suscitera un résidu, d'abord de parmi les Juifs qui n'ont pas connu l'évangile du salut. Ceux qui l'ont connu, ils n'auront pas une deuxième chance. Mais parmi ceux qui ne l'ont pas connu, il y aura des personnes qui seront converties et qui accepteront le Seigneur Jésus. Ce sera une minorité du peuple juif, c'est pour cela que nous les appelons un résidu. Et ce qui les marque, nous trouvons ici, Thomas n'était pas là la première fois quand Jésus était venu. Les autres disciples racontent, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, à moins que je ne voie en ses mains la marque des clous et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous et que je ne mette pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Alors il est très clair, il dit, il me faut voir d'abord et je veux bien croire après. Et c'est ce qui est caractéristique pour cette époque qui viendra, pour ce résidu qui sera là. Ils verront le Seigneur Jésus et ils croiront. Et nous allons apprendre tout à la fin, je ne veux pas trop anticiper, mais la part des chrétiens de croire sans avoir vu, c'est en fait supérieur. Mais néanmoins, c'est beau de voir, les frères vont expliquer comment le Seigneur agit avec ce disciple qui est d'abord lent à croire, qui veut voir d'abord, mais qui finalement est aussi amené à une belle confession.
Cette histoire de Thomas, du point de vue symbolique qu'on vient de mentionner, c'est une histoire qui touche nos cœurs et on en voit plusieurs exemples dans l'Ancien Testament. Par exemple, quand on pense aux frères de Joseph. L'histoire des frères de Joseph, il me semble qu'on pourrait dire que c'est un parallèle à mettre avec celle de Thomas. Ils avaient rejeté et ils vont ils avaient rejeté leur frère, le Messie, et ils vont en image le Messie. Il y a tout un travail de repentance qui va s'accomplir dans leur cœur, et ils vont se repentir et ils vont le voir et croire. On pense aussi à Ésaïe 53, un passage que nous aimons tous beaucoup. Et en fait, c'est l'application première, littérale de Ésaïe 53, c'est la repentance est extrêmement touchante, profonde, de ce résidu d'Israël dans l'avenir. Donc c'est peut-être que pour nous, ou pour des jeunes, on pourrait se dire, mais pourquoi s'occuper du résidu d'Israël? Est-ce que ça a vraiment une certaine importance? Oui, ça a une importance, même si ça ne nous concerne pas directement, ça concerne notre Seigneur, ça concerne sa gloire aussi sur la terre, les plans de Dieu en rapport avec la terre, et cela devrait nous intéresser. Et donc on voit combien cette histoire ici préfigurée dans la personne de Thomas est touchante et importante, et le Seigneur qui est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, eh bien il va être plus tard reconnu, reçu. Et comme Thomas a pu dire « Mon Seigneur et mon Dieu » au verset 28, il y aura cette confession et du résidu d'Israël et qui se réjouira de retrouver le Messie qu'ils avaient crucifié. On peut aussi voir ce paragraphe, et j'aimerais faire quelques remarques d'un point de vue très pratique. Et on a, c'est aussi l'histoire, on pourrait dire, de quelqu'un qui était absent des réunions. Et il y a des absences aux réunions, et on pourrait dire qu'il y a des absences légitimes et des absences moins légitimes. Ça arrive dans la vie de l'Assemblée. Et comment réagir à ces situations? Et là, on voit que, verset 25, les autres disciples disent à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur. » Ils ne lui font pas directement un reproche, mais ils lui font sentir qu'il est passé à côté de quelque chose. Et réfléchissons à cette manière de parler. Et pourtant, Thomas, il ne réagit pas bien. Et on voit que même une bonne manière de parler ne produit pas nécessairement une bonne réaction. Parfois, on a cette idée, ah ben, si il avait bien parlé, un tel aurait bien reçu. C'est possible, mais ce n'est pas systématique, pas du tout. Alors bien sûr, ça ne nous encourage pas je ne veux pas nous encourager à mal parler aux autres, mais je veux simplement souligner que même de bonnes paroles d'exhortation, comme ici, même si ce n'est pas directement une parole d'exhortation, ne sont pas forcément bien reçues. Et on voit chez Thomas, non. Verset 25, il résiste en fait. Il dit non, mais moi, à moins que je vois, je ne croirai pas. Et ce qui est remarquable, c'est que les disciples, ils s'arrêtent, ils n'insistent pas. Et ça aussi, c'est peut-être un enseignement. Ne cherchons pas forcément à avoir le dernier mot dans les exhortations. On fait une remarque, et même si elle n'est pas bien reçue, on laisse. Et donc, on voit que là, Thomas résiste dans un premier temps, mais, je pense à un verset de Hébreux 13 qui nous parle de supporter la parole d'exhortation. Je mentionne cette expression, supporter la parole d'exhortation. C'est quelque chose que nous devons apprendre. Mais Thomas, là, il semble qu'il ne supporte pas ce qu'on lui dit, il ne croit pas, il résiste, mais les disciples laissent. Et ce qui est beau, c'est de voir que, silencieusement, le travail de Dieu s'est fait. Et 8 jours après, Thomas est là. Le travail du Seigneur en silence. Et Thomas est là, et le Seigneur a tout entendu. Il n'était pas présent quand Thomas a parlé aux autres disciples, mais le Seigneur a tout entendu. Et quand il revient 8 jours après, le Seigneur va s'adresser directement à Thomas et il lui dit « Avance ton doigt ici », etc. Et ça, c'est aussi quelque chose, il me semble, qui est encourageant. C'est le Seigneur qui parle à l'individu, peut-être même à travers la réunion, à travers le message, le Seigneur qui va parler à l'individu et qui va lui dire exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Et il n'y a que le Seigneur qui sait faire ça. Nous, nous pouvons peut-être être des instruments inconscients de ce travail du Seigneur, mais regardons la beauté du travail du Seigneur qui va dire à Thomas exactement ce qu'il avait besoin d'entendre et qui correspondait à son état. Et on pourrait dire que c'est la parole de prophétie. Et le Seigneur qui veut s'adresser à chacun de nous individuellement, alors peut-être que les frères à côté de nous ou les sœurs, elles ne savent pas que cette parole qui a été prononcée, elle était pour moi. Mais moi, je le sais. Ce que le Seigneur a fait dire à travers un message, ça, c'était pour moi. Et c'est ce qui se passe avec Thomas. Et ce qui est beau aussi de voir, c'est que c'est lié aux souffrances et à la mort du Seigneur. Et c'est comme si le Seigneur, c'est souvent à travers le rappel à nos cœurs de ses souffrances, de sa mort, de son œuvre à la croix, qui peut réveiller les affections chez nous. Et il me semble que c'est, on peut voir aussi dans cet épisode un merveilleux travail du Seigneur qui peut s'appliquer peut-être aussi dans ce que nous pouvons vivre les uns les autres individuellement dans la vie d'assemblée.
Si nous regardons ce que Jean nous dit d'autre de Thomas, en particulier on a deux passages, on a Jean 11, quand le Seigneur reçoit les nouvelles de Lazare et tarde, attend pour parler, et au verset, donc chapitre 11, verset 15, 14 à la fin, le Seigneur dit aux disciples, « Lazare est mort, je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous, vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas donc appelé Didyme, dit à ses condisciples, « Allons-y nous aussi, afin que nous mourions avec lui. » Plus loin, au chapitre 14, si je ne me trompe pas, il y a une question. Le Seigneur vient de dire cette promesse, maison du Père, les places qu'il va préparer, et qu'il reviendra, je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et cette belle réponse du Seigneur, moi je suis le chemin et la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. On a le sentiment que Thomas est en même temps attiré et résiste. Attiré par le Seigneur et en même temps, et un attachement au Seigneur, et en même temps résiste au chemin par lequel le Seigneur doit passer et par lequel il faut le suivre. Et qu'au fond, ces paroles qui répondent aux disciples quand ils lui disent « Nous avons vu le Seigneur », c'est comme une défense, c'est comme une résistance au chemin tel que le Seigneur le place devant lui. Et c'est comme s'il disait, c'est pas la parole qui nous le dit comme ça, mais c'est comme s'il disait « Non, Seigneur, le chemin que tu as pris, le chemin que tu nous montres, là, non, ça ne tient pas. » Au fond, il résonne. Il est attaché au Seigneur, il désire suivre, il a une piété, il a une foi en Dieu, mais une résistance dans le raisonnement au chemin que le Seigneur devait suivre, a suivi. La résurrection, c'est quelque chose qu'il ne reçoit pas. Il veut toucher du doigt et en gros, si on reprend Luc 24, les autres disciples devaient avoir des réactions aussi un peu similaires quand le Seigneur doit leur dire, verset 39, « Touchez-moi, voyez, car un esprit n'a pas de chair et des os comme vous voyez que j'ai. Avant, il leur disait juste « Voyez mes mains et mes pieds ». C'est au fond les mêmes termes qu'utilise Thomas. Il faut que ce raisonnement soit brisé, il faut que ce raisonnement soit mis par terre. Et je vais déjà un peu en avant, on y reviendra. Une fois que Thomas cède, qu'est-ce qui sort de son cœur? Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Mon Seigneur et mon Dieu. Alors je voudrais m'adresser à ceux qui sont jeunes dans la foi. Ça m'est arrivé aussi de désirer voir le Seigneur et de dire au Seigneur, mais c'est bien la foi, c'est bien marcher par la foi, mais j'aimerais bien pouvoir un peu marcher par la vue aussi. C'est quelque chose que le Seigneur connaît, c'est quelque chose que le Seigneur comprend. Il faut le lui dire. Il faut lui dire, et il y a quelque part un pas que personne ne peut faire à notre place. C'est ce pas de céder devant le Seigneur dans les choses comme lui les veut. Les paroles du Seigneur sont à la fois sévères et douces, ne sois pas incrédule mais croyant. C'est sévère, mets cette incrédulité de côté, juge-la. Chasse-la de toi, elle n'a pas sa place devant moi. Et sois croyant, reçois les choses, reçois-moi comme je me présente à toi. Et alors, cet élan du cœur peut sortir, mon Seigneur et mon Dieu.
Je reviens encore une fois sur ce plan prophétique. Un frère a déjà dit que pour le Seigneur, ou pour nous, ça doit être aussi quelque chose de nos cœurs, parce que cette restauration de ce résidu juif est quelque chose pour le cœur de notre Seigneur. Nous avons vu cette journée plusieurs gloires de notre Seigneur. Et pour lui, la restauration de son peuple est très précieuse. Si vous regardez l'introduction de ce repas pour nous, son assemblée, le pain et la coupe. Quatre fois, nous avons cette histoire répétée dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, 1 Corinthiens 11. Et dans chaque cas, quand le Seigneur parle de cette coupe, il dit « c'est le sang de la Nouvelle Alliance ». La Nouvelle Alliance n'est jamais faite avec nous. Ça sera fait avec son peuple. Et ça montre que le Seigneur, même quand il a introduit un privilège pour nous, son assemblée, il a quand même pensé à son peuple. Parce que pour son cœur, cette restauration sur cette nouvelle alliance est si précieuse. Quand le Seigneur était cloué à la croix, nous avons cette expression du Seigneur. Et la première est « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pour moi, ça montre que la gloire du Seigneur, ceux qui ont crucifié le Seigneur, qui ont, pour leur responsabilité, nombre 15, ont péché avec leurs mains de fierté, avec fierté. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de pardon pour ce péché. Par cette prière, le Seigneur donne cette possibilité d'avoir ce pardon. Et ici, nous voyons par Thomas que ces pensées, ce désir de notre Seigneur sera accompli. Et qu'il va, comme nous avons vu dans le verset 25, ces expressions de leur propre volonté. Au début, il n'est même pas vraiment un désir d'eux, de revenir vers le Seigneur, seulement si il agit d'après nos pensées, nous voulons revenir. Mais le Seigneur va agir dans leur cœur et vont voir le Seigneur vraiment. On le voit dans Zacharie 12, n'est-ce pas? Dans ce verset 10, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé et ils se lamenteront sur lui, etc. Ça veut dire, le Seigneur va vraiment acquérir une œuvre dans leur cœur et vont repentir devant lui et ils vont le voir. Mais comme Thomas a dit ici, à moins que je ne voie en ses mains la marque des clous et que je ne mette mon don dans la marque des clous, etc. À la fin, ce n'était même pas nécessaire. N'est-ce pas, quand le Seigneur l'invite de le faire, verset 27, la réponse de Thomas est « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ça veut dire le regard vers le Seigneur, le regard du Seigneur est la fin de leur question, même de leur incrédulité. Le regard du Seigneur est toujours la réponse pour les besoins et pour les questions des personnes qui ont encore un cœur ouvert pour la repentance, pour les mots de notre Seigneur. Et ici, certainement, le Seigneur a dû reprocher à Thomas parce que tu m'as vu. Mais quand même, Thomas a accepté Jésus comme celui qu'il est. Pas seulement Messie, Seigneur et mon Dieu. Oui, c'est vrai, l'auteur de la compréhension et de ses liens de l'assemblée avec le Seigneur sont plus hauts, plus élevés que la compréhension et les liens de son peuple. Mais avec son peuple, aussi le Seigneur va venir à ce que son cœur a désiré. Maintenant, pour nous, et je crois que les deux derniers versets de ce chapitre que nous n'avons pas lu nous montrent que le Seigneur à quelque chose aussi pour nous, aussi même par ce dernier paragraphe, à enseigner. Nous avons déjà entendu un peu que aussi peut-être les jeunes, les faibles, peuvent vouloir avoir aussi quelque chose pour voir, pour toucher. Et je crois que c'est un peu le ton aujourd'hui. Qu'on regarde, encore une fois, comme les Juifs, sur les choses extérieures. On veut voir quelque chose. Peut-être, par exemple, on veut voir des réponses aux prières miraculeuses. Jeûner a de nouveau pris une place extraordinaire. Je ne dis pas que jeûner est faux, mais jeûner est plutôt juif. Particulièrement si on parle de cela. Les choses pour voir, les choses pour toucher ont pris une place plus importante qu'au début du temps chrétien. Et pour nous, ce verset 29, mais aussi 30 est écrit. Bienheureux ceux qui n'ont point vu, qui ne cherchent pas des choses visibles, des guérisons miraculeuses, des miracles pour les voir. Verset 30. Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d'autres, je prends la note, signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Le Seigneur a accompli beaucoup de signes. Les Juifs regardent vers les miracles. Les chrétiens voient les signes. Ça veut dire qu'ils voient que dans ces choses, il y a une signification spirituelle. Et ils ne cherchent pas des choses visibles, mais des choses spirituelles, une communion spirituelle avec le Seigneur. Qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous avons compris dans ce paragraphe 19 à 23 que les choses spirituelles sont liées avec le temps de l'Assemblée, avec nous, et que le Seigneur veut produire dans nos cœurs des sentiments pour lui sur la base spirituelle, sur la base de sa parole, et pas sur la base, pour ainsi dire, juive. Le Seigneur va accomplir aussi son œuvre pour les croyants de cette nation. Et comme j'ai dit, pour le Seigneur, c'est précieux. C'est la raison pour laquelle, pour nous aussi, ce peuple, dans l'avenir, peut avoir quelque chose dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous cherchons des choses pour toucher, pour voir, ou est-ce que nous cherchons le Seigneur? Si on a vu le Seigneur, ça nous suffit. Si nous avons cette relation active, vivante avec le Seigneur, ça doit nous suffisant. Est-ce que si le Seigneur est devant nos yeux, devant nos cœurs, nous sommes capables de vivre avec lui sans des yeux pour voir, sans des mains pour toucher, mais des cœurs obéissants et dévoués pour lui.